Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, les athlètes handicapés sont-ils des compétiteurs comme les autres ? TF1 n'était jamais tombé aussi bas, du moins en termes d'audience. Au mois d'août, la chaîne privée a enregistré le plus mauvais score de son histoire. La faute, selon Médiamétrie, à la concurrence des JO, lesquels étaient diffusés sur France Télévisions. Alors ce n'est pas faire injure aux athlètes handicapés de prédire que cela ne se reproduira pas avec les Jeux Paralympiques. La compétition démarre le 7 septembre, dans 8 jours, toujours à Rio, toujours en direct sur France Télévisions. Mais avec des audiences qui seront à coup sûr bien moindres que quelques semaines plus tôt. Les athlètes engagés ne sont pourtant pas moins méritants que leurs collègues valides, mais leurs performances ne sont pas valorisées de la même manière. Ce qui est mis en avant, c'est moins le résultat, la sanction du chronomètre, que la capacité à surmonter son handicap. Il est vrai que les repères manquent pour apprécier les exploits de ces sportifs, des sportifs chez qui la performance, la compétition n'ont d'ailleurs peut-être pas exactement le même sens que dans le monde du sport valide. Alors, les athlètes handicapés sont-ils des compétiteurs comme les autres ? C'est notre sujet du jour. Et nous allons discuter avec quatre invités, à commencer par vous, Laetitia Bernard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au service des sports de Radio France. Vous allez commenter les Jeux Paralympiques de Rio. Vous serez la représentante de Radio France pour ces Jeux. Vous êtes par ailleurs athlète de haut niveau, puisque vous avez été 6 fois championne de France de saut d'obstacles handisport. Saut d'obstacle, c'est donc de l'équitation. Je précise peut-être la nature de votre handicap. Vous êtes non-voyante. Pour discuter avec vous, Patrick Montel, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à France Télévisions, la voix de l'athlétisme de la télé. Vous serez vous aussi à Rio pour ces Jeux Paralympiques. Vous y étiez déjà il y a quelques jours. Vous faites partie de ces journalistes sportifs qui ne sont pas si nombreux que ça à s'intéresser de près au monde du handisport. Et vous avez publié quelques semaines de cela aux éditions Talents Sport, concentré des motions qui racontent un petit peu votre parcours, dans lequel il est question d'ailleurs notamment de vos rencontres avec certains sportifs handicapés. Notre troisième invité est psychologue. Il s'agit d'Hubert Ripoll. Bonsoir.
Bonsoir.
Psychologue du sport. Vous avez créé le premier laboratoire français de psychologie cognitive appliquée au sport. Vous venez de publier aux éditions Odile Jacob La résilience par le sport, qui traite notamment de la façon dont vivent les sportifs handicapés, dont ils vivent justement leur pratique. J'étais d'ailleurs assez étonné de ne pas retrouver le terme de handicap dans le titre du livre, même s'il y a la photo d'un sportif qui est en fauteuil, mais le handicap n'est pas mentionné. Est-ce que c'est un oubli ? Est-ce que c'était une volonté ?
Non, absolument pas. Un titre, c'est jamais un acte manqué ou un oubli. Non, il est question de résilience et s'il y a des personnes qui peuvent montrer ce qu'est la résilience, sont bien les personnes handicapées et notamment dans le handisport. Voilà, donc l'essentiel est de parler de résilience. Effectivement, les exemples qu'il nous donne sont tout à fait exceptionnels.
Alors, j'ai évoqué la présence de 4 invités. Nous attendons le 4e, c'est Riyad Salem, qui est membre de l'équipe de France Paralympique de rugby fauteuil, qui sera à Rio, lui aussi. Alors, lui sur le terrain d'ici quelques jours, qui a déjà participé à 4 Olympiades précédemment et qui nous avons hâte de discuter. Mais peut-être d'abord faut-il poser une première question, puisque pendant l'été, pendant un court moment, il a été question d'une possible annulation des Jeux de Rio. D'abord, Patrick Montel, qu'est-ce qu'on peut dire avec certitude que ces Jeux vont bien avoir lieu dans 8 jours ?
Apparemment, ils vont avoir lieu, mais moi, l'impression que j'en ai, c'est que les Brésiliens sont un peu la patate chaude, là. Ils savent pas trop quoi faire des Jeux Paralympiques. C'était engagé il y a 7 ans, lorsque la candidature de Rio a été adoubée par le CIO. Ils s'étaient engagés à organiser ces Jeux Paralympiques. Ils ont déjà eu beaucoup de mal à organiser les Jeux Olympiques, pour des raisons évidentes que l'on connaît, le Brésil étant dans un état de précarité très important. Et par conséquent, ces Jeux Paralympiques arrivent très très mal au Brésil, et c'est vrai que l'argent manquait, il a fallu débloquer en urgence un fonds spécial. Mais quand je vois déjà les difficultés financières qui ont accompagné les Jeux de Rio, je suis assez inquiet sur la tenue régulière, je dirais, des Jeux Paralympiques.
Alors c'est vrai que le Brésil est confronté à une situation économique compliquée. Laetitia Bernard, est-ce qu'il faut aussi voir dans ces difficultés annoncées à financer justement cet événement que sont les Jeux Paralympiques, une forme aussi de manque de considération pour cette pratique sportive, en tout cas peut-être de la part de certains pays?
Je ne saurais pas vraiment dire ce qu'il en est, mais en fait, il y a un petit peu les deux parties, parce que effectivement, on peut se dire, bah oui, les Paralympiques, c'est moins important, bon bah tant pis. Mais à l'inverse, ce que me disaient certaines personnes à la Fédération Française Handisport, quand il a été question des problèmes de financement, des budgets qui étaient coupés, c'est... Non, ils vont retrouver les fonds, ils vont faire quelque chose et ça se fera parce que c'est impossible aujourd'hui de ne pas faire les Jeux paralympiques. Alors, parce qu'il y a des volontés aussi politiques derrière, il y a quand même quelques aussi sponsors. Donc, et puis, il y a quand même un regard humain, on a beau dire, voilà, manque de considération, etc. On le voit bien quand à Londres, à France Télévisions, il y a quand même beaucoup de téléspectateurs qui ont écrit en disant pourquoi il n'y a pas de direct. Donc, il y a quand même quelque chose qui bouge aussi, je pense.
Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple d'organiser les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques en même temps ?
Non,
c'est impossible.
Non, c'est impossible.
Pour quelle raison ?
Le gigantisme, c'est déjà quasiment impossible aujourd'hui d'organiser les Jeux pour un État, je dirais, en situation normale. Aujourd'hui, à part le Qatar et la Chine, je vois guère de pays qui soient vraiment en capacité d'organiser les Jeux d'une manière parfaite, conformément à la charte du CIO et aux obligations diverses et variées. D'ailleurs, on le voit bien, le Brésil n'a pas été en capacité d'organiser correctement les Jeux Olympiques. Alors, organiser les deux à la fois, c'est impossible.
C'est impossible. Est-ce que, pour autant, si ça l'était, est-ce que ce serait souhaitable, Laetitia Bernard ?
Mais c'est pas possible, ne serait-ce que pour des raisons logistiques.
Non, mais sortons voilà, des questions logistiques. Est-ce que du point de vue de la visibilité, par exemple...
Il faudrait les rapprocher, je dirais, peut-être. Ouais. Peut-être les rapprocher. Ou déjà, par contre, pour un championnat du monde ou un championnat d'Europe, par exemple, d'athlétisme, avec un peu plus resserré, avec une discipline plus précise, là, oui, ce serait formidable qu'on développe ça, que ça se mette en place. Le championnat du monde d'athlétisme, bah, y a aussi le championnat du monde handisport en même temps. Par contre, pour des Jeux olympiques et paralympiques, quand vous voyez déjà le nombre de sports, le nombre d'épreuves, la densité que ça représente, peut-être les rapprocher, mais en même temps, je ne sais pas comment... Je sais pas.
Hubert Ripoll, vous qui travaillez avec des athlètes valides et avec des athlètes handicapés, qu'est-ce que vous pensez de cette justement possibilité de rapprocher un petit peu, au moins dans le calendrier, les épreuves ? Dans votre livre, vous évoquez notamment ce que vous appelez un entre-deux où les athlètes, alors qu'ils sont handicapés, ont parfois du mal à choisir leur camp. Vous avez même des mots assez forts là-dedans. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a pour qu'il y ait un vrai accomplissement de ces athlètes, la nécessité de se démarquer et d'avoir leur rendez-vous bien à eux, bien identifié.
Non mais Laetitia Bernard a raison, il y a des exemples de fédérations qui organisent conjointement les championnats du monde avec les épreuves handisport, c'est le cas de l'escrime, et d'ailleurs ça s'est passé à Paris, et ça a été remarquablement fait. Donc ça c'est tout à fait possible, mais le gigantisme des Jeux, ça a été dit aussi, ne permet pas d'avoir la juxtaposition. Alors après, reste à voir s'il doit y avoir 15 jours entre les deux, quel lien on doit faire, c'est une autre question, mais on ne peut pas imaginer les mener conjointement. De toute façon, l'un sera toujours sur les ténoirs de l'autre.
Le moindre des respects, selon moi, ce serait d'inverser. Ce ne serait pas de les faire ensemble, ce serait d'inverser. C'est-à-dire de commencer par les Jeux paralympiques et ensuite de proposer les Jeux olympiques. Parce que ça permettrait une sorte de préambule. Et comme les gens sont en attente des Jeux olympiques, je suis sûr que s'ils avaient les paralympiques avant, ils seraient beaucoup plus tentés par regarder, plutôt qu'une fois que le rideau est tombé, la fête est finie, et ben on leur met ça en session de rattrapage, comme ça, comme une voie de garage. Donc je pense que le moindre des respects, ce serait ça. Sauf que le CIO n'a strictement aucune envie de ça, bien sûr, parce que ce serait évidemment d'enlever un peu de lustre et de lumière à sa propre compétition.
Alors, j'avais évoqué la présence attendue de Riyad Salem, qui est coincé dans la circulation parisienne, mais nous l'avons au téléphone. Bonsoir Riyad Salem.
Bonsoir.
Vous êtes membre de l'équipe de France paralympique de rugby fauteuil. Vous allez partir pour Rio après-demin. Je crois peut-être d'abord, peut-être il faut-il dire un mot de ce qu'est le rugby fauteuil.
Oula. Alors, le rugby fauteuil, c'est qu'officiellement, on a le droit de dégommer des handicapés et on a applaudi pour ça. Mais un peu plus sérieusement, le rugby fauteuil, c'est un sport qui nous vient du Canada. C'est les anciens hockeyeurs et footballeurs américains qui se faisaient le coup du lapin, qui ont voulu reconstituer un sport de combat collectif adapté à leur handicap. Parce qu'à l'origine, c'était des personnes qui étaient tétraplégiques. Et donc l'origine de ce sport s'appelait le Murder Ball. Donc c'est 4 contre 4 sur, dans un terrain de basket avec une balle de volley, avec des règles du hockey, du football américain, du basket, du rugby. C'est un mélange un petit peu de tous les sports.
Alors c'est une discipline, Riyad Salem, qui va vous valoir donc de participer à ces Jeux paralympiques de Rio. Ce ne seront pas vos premières Olympiades, puisque vous étiez déjà là à Atlanta. Vous avez participé aussi aux Jeux paralympiques de Sydney, d'Athènes et de Londres, dans d'autres disciplines, d'ailleurs en natation et en basket fauteuil. Je ne sais pas ce que vous avez pu entendre de la conversation qu'on a eue depuis le début, en tout cas sur au moins la garantie que ces Jeux de Rio auront lieu. Donc on va parvenir là-dessus. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur l'idée, mais peut-être que vous allez trouver ma question un petit peu étrange, de la nécessité d'avoir des Jeux paralympiques. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important, ou bien est-ce qu'on pourrait se dire, mais finalement, pourquoi vouloir finalement distinguer les sportifs handicapés des autres sportifs, puisque ce qu'on entend très souvent dans les discours, c'est que ce sont des sportifs comme les autres.
Oui, c'est des sportifs comme les autres, parce qu'il y a aussi un phénomène où on adapte des règles, on adapte à une réalité qui est physique, physiologique ou même des fois intellectuel, cognitif. Donc, fondamental d'avoir des Jeux paralympiques. Il y a quelque chose qui est important, j'ai entendu tout à l'heure, mettre les Jeux avant, après, tout ça. Je pense que c'est vrai que c'est des questions qui sont intéressantes à se poser. Mais je pense qu'il faut faire attention, puisqu'on vient de le voir avec ce qu'on a vécu au Jeux de Rio. Est-ce que les structures seront prêtes pour les Jeux paralympiques si on les mettait avant? J'en doute. Je pense qu'il y a un effort qui est fait, parce que ce sont les Jeux olympiques, que aujourd'hui il y a certes des symboles sur lesquels on peut s'appuyer pour pas que, une fois que les Jeux olympiques se terminent, les Jeux paralympiques arrivent comme un cheveu sur la soupe dans certaines nations, parce que je précise, tous les pays ne traitent pas médiatiquement les Jeux paralympiques de la même façon, et il y a des pays qui les couvrent à 100% comme les Jeux olympiques. Et c'est fondamental, pour revenir à votre question, qu'évidemment pour les handicaps les plus lourds, il y ait ces Jeux paralympiques, parce qu'on n'est pas axé sur les mêmes principes.
Et à ce titre, il y a souvent les Jeux de Londres qui sont mis en avant, hein, c'était en 2012, c'est pas très ancien, pour dire que les athlètes du paralympisme avaient toute leur place. Est-ce qu'on peut dire que c'était une forme de parenthèse enchantée, ces Jeux de Londres, par rapport à la façon justement dont le handisport est traité, Laetitia Bernard?
Pardon, vous pouvez me reformuler la question?
Non, je revenais sur les Jeux de Londres en 2012, qui ont été vraiment les Jeux paralympiques de Londres, dont on dit qu'ils étaient particulièrement exemplaires. Mais est-ce que c'est justement, on va dire, l'exception qui confirme la règle pour vous, jusqu'à présent, ces Jeux de Londres?
Dans le sens où, si on compare avec, déjà avec ceux d'avant, évidemment, parce que à l'époque, que ce soit 2008, 2004, 2000, rien que pour savoir les résultats qu'avaient fait nos athlètes français, c'était un petit peu compliqué. Et puis, alors si on compare au championnat du monde et au championnat d'Europe, là c'est pareil. Enfin, Londres, il y avait du monde dans les tribunes, les gens encourageaient. Le nombre de hauts championnats en e-sport qu'on a, mondiaux, Europe, où il n'y a personne, où c'est désert, ou même un championnat de France, il n'y a pas de public. Donc Londres, ça reste une exception quand même, je pense, pour le moment.
Alors, s'il n'y a pas de public, c'est peut-être parce qu'il y a un défaut d'éducation, un défaut de médiatisation, un défaut aussi donc de compréhension peut-être de ce qu'est la performance, de la façon dont on parle d'une performance dans le monde du handisport. Je voudrais vous faire écouter un petit extrait qui devrait vous dire quelque chose, Patrick Montel.
Marie-Amélie, oui. Qui est en aveugle dans cette course au couloir numéro 8, a pris tous les risques. Est-ce qu'elle va tenir comme ça? Si elle tient, c'est peut-être une médaille d'or pour l'équipe de France, la troisième pour l'instant.
Oh oui, Patrick, elle va tenir. Elle est très très bien là, très bien en ligne.
Oui, il n'y a personne pour venir gêner Marie-Amélie Le Fur. Bensussan est très très loin, l'Allemande. Marie-Amélie Le Fur qui est en train de réaliser un véritable exploit ici à Doha et qui va apporter la troisième médaille d'or à l'équipe de France. Superbe course.
Record.
Et 59-31, c'est le record du monde. Record du monde pour Marie-Amélie Le Fur, qui est la première femme dans sa catégorie à descendre sous la minute.
Voilà, ça se passait l'an dernier à Doha, au championnat du monde d'athlétisme handisport. Là, vous commentiez, Patrick Montel, à la finale du 400 mètres dames dans la catégorie T44. Est-ce que vous avez le sentiment que vous commentez cette course, par exemple, de manière différente d'un 400 mètres aux Jeux Olympiques de Rio, par exemple, ou de notre
ouais,
ville.
J'ai envie de dire oui et non. Alors, oui, parce que l'adversité est moindre, parce que Marie-Amélie, là, quand je raconte ma course, elle est toute seule. C'est-à-dire que l'Allemande, qui est deuxième, elle a 100 mètres de retard. Donc, effectivement, maintenant, la performance de Marie-Amélie par rapport à elle-même, elle est juste exceptionnelle. Et là, je commente normalement. Mais je voulais juste dire un truc, parce que par rapport à ce que disait Riyad, il parlait des handicaps lourds, des gens qui avaient besoin de concourir aux Paralympiques. Mais il y a quand même un truc qu'il faut savoir, c'est que le Marcus Rehm, par exemple, le sauteur en longueur qui a une prothèse, il fait 8,40 m à Doha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il participe aux Jeux Olympiques de Londres, pseudo des valides, il est médaille d'or. Et on n'en veut pas de ce mec-là. On n'en veut pas parce qu'il gêne. Il gêne terriblement. Donc, il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. Pourquoi les handisports, on les ravale dans les Paralympiques? Parce qu'on n'a pas envie de les voir avec les valides aussi.
La question de la performance et de la place de la performance ou du record, par exemple, Hubert Ripoll, dans le monde du handisport. Est-ce qu'il a une place particulière? Patrick Montel disait, voilà, c'est ce qu'a fait cette championne, c'était quelque chose d'exceptionnel par rapport à elle-même. C'est vrai que c'est ce qui revient beaucoup, justement, dans les témoignages que vous avez recueillis. C'est d'abord le dépassement de soi avant, finalement, presque avant la question du record ou l'idée de battre ses adversaires.
Oui, il ne faut pas voir ces compétitions en comparaison avec celle des valides, même si on peut sauter 8,40 m, bon, c'est quand même, ça reste exceptionnel. Mais bon, j'ai entendu le ton de Patrick Montel. Pour moi, j'étais en train d'écouter une finale de Jeux Olympiques, c'est-à-dire au plus haut niveau. Il s'avère que c'était du Paralympique. Mais c'est, l'émotion est là. Ce qui veut dire que l'émotion est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont en compétition, et c'est la caractéristique du sport, et qu'elle représente notre nation, et qui est une des raisons pour laquelle nous regardons du sport. Autrement dit, tous les ingrédients sont là, sauf une chose. La performance, mais au-delà de la performance, et cela a été dit, c'est la représentation que l'on a du handicap en France, parce que les personnes handicapées ne sont pas visibles, puisqu'elles ne sont pas dans la rue. Parce que pour des raisons qui tiennent à l'accessibilité, pour des tas de raisons, parce qu'il y a une stigmatisation. Et je dirais que ce n'est pas par hasard, on pourra peut-être y revenir, si les problèmes se posent au Brésil, au-delà des difficultés économiques, qui est un pays latin, les choses ne se seraient pas passées de la même façon dans un pays non latin. Pour des raisons que je pourrais développer.
Riyad Salem, j'espère que vous êtes toujours en ligne avec nous, et toujours peut-être en route pour la maison de la radio, sur cette question de la façon dont on commente finalement une épreuve du paralympisme. Est-ce que vous avez le sentiment que, par exemple, quand il y a des commentaires sur des compétitions auxquelles vous participez, même si les médias s'y intéressent quand même d'assez loin, c'est la même façon de procéder, ou bien le fait que vous soyez handicapé prime peut-être sur la performance pure?
Alors, ça dépend du présentateur. Alors, on a Patrick Montel qui est un passionné de sport, et lui, au-delà du handicap, il voit la performance, il voit le sportif s'exprimer. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes rapports que on commente pas un exploit handicapé, on commente un exploit tout court. Et ceux qui ont un peu de notion de pédagogie, qui comprennent un peu la discipline et les handicaps, peuvent parler de l'exploit au-delà, comme on disait tout à l'heure, des adversaires ou des choses comme ça, parce que c'est vrai que dans notre univers, des fois, on peut voir des finales où on comprend pas très bien pourquoi il y en a un qui a peut-être 2 mètres derrière. Mais si on comprend les pathologies, on peut se projeter dans quelque chose qui est du domaine de la performance et de la passion. Après, c'est vrai que ce qui se passe au Brésil, c'est particulier parce qu'il y a une conjoncture économique. Mais moi, les Jeux de Barcelone font partie des plus beaux Jeux, comme avec ceux de Londres. Et les stades étaient pleins et c'était un pays latin. Alors que quand j'ai fait Atlanta, ça a été juste terrible. Atlanta a été terrible parce que il n'y avait pas cet engouement. Les Américains avaient même décidé peut-être de déplacer les Jeux ailleurs qu'à Atlanta à l'époque. Donc vous voyez, il y a je pense pas que ça soit une question de latin ou de pas latin ou d'anglo-saxon ou de pas anglo-saxon. C'est que vous pouvez avoir un pays anglo-saxon qui va porter les Jeux paralympiques à très haut niveau et un pays latin qui va les porter à très haut niveau, comme vous pouvez avoir un autre pays anglo-saxon qui vont peut-être porter les Jeux paralympiques et y attacher moins d'importance.
En tout cas, il y a la question de la compréhension qui peut être liée à la culture sportive de chaque pays, à la culture justement handisport. Sur cette question de la compréhension, Laetitia Bernard, vous êtes handicapée, vous êtes journaliste sportive. Est-ce que ce sont les raisons a priori qui font que c'est vous que l'on a choisi d'envoyer à ces Jeux paralympiques de Rio, parce que vous serez peut-être la meilleure pédagogue pour cela?
Alors pour ce qui En fait, c'est moi, sur la première fois que je suis partie faire des jeux, couvrir des Jeux paralympiques, c'est moi qui avais proposé, qui avais souhaité le faire, parce que moi-même, ça me passionnait, et j'avais un immense respect évidemment pour toutes les performances aux paralympiques, et j'avais envie de parler de ça. Donc maintenant, à l'époque, j'étais pas encore à la direction des sports. Maintenant, j'y suis. On me l'a reproposé.
On vous demande quoi d'ailleurs? C'est-à-dire, vous allez partir à Rio, c'est-à-dire on vous demande quoi, de faire du reportage sur le handisport ou de couvrir vraiment les compétitions?
C'est plutôt la dominante sportive, hein, quand même, de couvrir les compétitions. Je ne vais pas faire de commentaires en direct, bien sûr. Après, c'est vrai que je vais m'attacher plus sur du portrait, sur tout simplement aussi des descriptions de disciplines. Riyad parlait du rugby fauteuil. Bah, qu'est-ce que c'est? Comment on y joue? Montrer en fait tout ce qui est possible de faire quand on a n'importe quel handicap, comment on peut trouver des adaptations. Mais par contre, sur la question aussi de la clarté et de la représentation, plus globalement, on parlait éventuellement de la concurrence. Des fois, il y a toujours un athlète qui est devant, on ne comprend pas pourquoi, et c'est pourquoi derrière, ils sont aussi loin. Et ça, c'est une vraie question aussi au niveau du grand public, c'est la lisibilité. Effectivement, aux Jeux paralympiques, il y a 10 catégories pour un 100 mètres. Parce que, en athlétisme, en natation, parce qu'il y a différentes catégories de handicap. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut être très compliqué en tant que journaliste à traiter. Vous allez avoir 10 champions olympiques du 100 mètres. Et alors là, le grand public, il peut lâcher. Il peut dire, telle ou telle course, puis il n'y avait pas grand monde derrière. Oui, bon. Et c'est ça aussi qui peut être compliqué à mettre en avant. Je ne sais pas, Patrick.
Patrick Montel, vous en pensez quoi? J'ai vu que vous avez donné, alors c'était pas daté, mais je crois que c'est assez récent, une interview à Handisport, le magazine de la Fédération Handisport, dans lequel justement vous critiquez un petit peu ça en disant il y a certaines disciplines qui sont très inégalitaires, ce qui est gênant car l'équité est la base du sport, les athlètes ne luttent pas à armes égales, et quand on propose un spectacle sportif à la télé, ce n'est pas valorisant. Est-ce qu'il faudrait aussi que le monde du handisport fasse un petit effort de lisibilité?
Un gros effort, très gros effort. Je veux dire, il va falloir tailler, il va falloir tailler dans le vif, et ça va faire mal. Ça va faire mal parce qu'il y a des disciplines qui sont moins spectaculaires que d'autres, il y a des disciplines qui sont moins denses que d'autres, et par conséquent, si le handisport veut obtenir la crédibilité qu'il mérite, il va falloir qu'il fasse des coupe-sons, il va falloir qu'il rende ses compétitions plus spectaculaires. Laetitia a raison. 10 champions paralympiques du 100 mètres, même si tous ont des raisons réelles de monter sur la première marche du podium, ça pose problème. Donc il va falloir trouver, comme toujours, un juste milieu.
Et en même temps, il faut bien trouver des niveaux de handicap à peu près équivalents pour qu'il y ait une forme d'équité.
Mais par exemple, Marie-Amélie Le Fur, dont vous m'avez fait la gentillesse de passer un extrait de cette course, elle court avec Marlou Van Rooyen, la néerlandaise, qui elle a 2 prothèses. Donc elle a 1 prothèse, Marlou en a 2. C'est évident que Marlou va gagner vis-à-vis de Marie-Amélie. Et donc Marie-Amélie aura l'argent. Mais au moins, elles sont en duel, en compétition, dans la même épreuve. Et ça, c'est important, même si Marie-Amélie doit se contenter de l'argent.
Est-ce que cette question de l'équité de la compétition, c'est quelque chose qui ressortait des entretiens que vous avez menés, Hubert Ripoll, avec les sportifs?
Non, c'est l'équité du regard des autres, c'est notamment des valides, sur leur performance. Parce que le discours des personnes handicapées, c'est... Nous nous entraînons autant que les valides, et ça, dans mon enquête, j'ai notamment dans certaines disciplines auxquelles je travaille, j'ai pu comparer quelles étaient les quantités d'entraînement, ce qu'il y a dans l'entraînement, les aspects psychologiques, la musculation, la physiologie, la diététique, et ainsi de suite. Donc on est sur des standards qui sont strictement identiques, et dans certaines disciplines, l'entraînement des handisports sont supérieurs à ce qu'elles sont chez les valides, dans au moins 1 ou 2 disciplines. Donc, par contre, ce qu'il y a, c'est un regard qui est différent, et ces personnes-là se battent pour monter sur la plus haute marche. Et évidemment, leur demande, tout à fait légitime, c'est d'être considérés comme des champions et des championnes, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est l'équité du regard sur leur performance qui pose problème.
Et pour que cette équité du regard existe, il faut donc peut-être davantage de lisibilité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Riyad Salem ?
J'adhère complètement à ce que vient de dire Hubert Ripoll sur l'équité du regard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne s'entraîne comme un champion, qu'il soit handicapé ou pas, qui met toutes ses tripes, qui met son temps, son talent au service de sa discipline et de son pays, il faut qu'il y ait un juste retour de cette performance et de ce talent qu'il déploie. Donc je suis complètement d'accord là-dessus. J'ai dit ça quand on était en téléphone, c'est que pour les amateurs que nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, notre salaire, c'est la reconnaissance. Et sans cette reconnaissance, on se retrouve face à quelque chose de compliqué par rapport à nos amis, par rapport à nos familles, et par rapport aussi aux interventions quand on va... j'ai raconté cette anecdote, quand je vais dans une école et que j'explique que je suis en équipe de France, ben les gamins me disent « comment tu peux être en équipe de France, on ne te voit pas à la télé ». Donc ça, c'est le réflexe de « si tu passes pas à la télé, donc tu ne peux pas être en équipe de France ». Dans l'esprit des enfants ou des jeunes, l'équipe de France, automatiquement, on va parler des champions qui sont en équipe de France.
Enfin, vous dites Riyad Salem, notre salaire, c'est la reconnaissance. Bon, d'accord, mais enfin, la reconnaissance, ça ne fait pas vivre. Est-ce que vous diriez qu'il y a quand même peut-être un besoin de professionnalisation dans le monde du handisport, parce que ça demande énormément de temps et donc ça demande des aides, peut-être aussi d'avoir davantage de sponsors, ce genre de choses?
Ah, mais ça ne retire en rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait étant qu'on est amateur. Mais c'est évident, depuis des années, je le dis, et plein de sportifs le disent, et plein de responsables aussi dans nos fédérations le pensent aussi, il faut qu'à un moment donné, on professionnalise. On est face à des machines de combat. On a des nations en face de nous où les gars sont payés des salaires de cadre pour s'entraîner. Pour certaines disciplines d'entre nous, des fois, c'est nous-mêmes les propres sponsors où on avance l'argent pour pouvoir faire nos stages et nos entraînements. Donc c'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir des gens d'une qualité incroyable, mais ça fait qu'on est en dents de scie dans les résultats. Alors c'est sûr que si on est professionnel, j'ai été moi professionnel en Italie à l'époque du basket, c'est sûr que j'ai senti la différence, quoi. Quand le matin, vous avez de quoi faire de vos musculations, d'avoir une équipe médicale qui vous suit aux petits soins, que vous avez des entraînements tous les jours, ça change tout à fait votre quotidien de sportif. Hein.
Laetitia Bernard, vous le ressentez aussi, vous, ce besoin de professionnalisation ?
Je le ressens, de la part des athlètes avec qui je discute, c'est clair que pour boucler leur budget, ils ont un peu de mal. Mais et encore, ça, je trouve que ça va quand même mieux, de mieux en mieux, parce qu'il y a quelques grosses entreprises quand même qui soutiennent, qui ont des teams aussi paralympiques, avec des emplois du temps adaptés. Je pense à Marie-Amélie Le Fur. Je pense, il y a quand même. Après, voilà, ça reste pour une élite, pour certains, et c'est vraiment pas facile, c'est sûr. Mais oui, il y a peut-être un besoin de professionnalisation, c'est sûr.
Mais est-ce qu'il n'y aurait pas le risque, peut-être, de dénaturer ce qui fait aussi la beauté du handisport ? Là, c'est quelque chose sur lequel vous revenez beaucoup, Hubert Ripoll, c'est-à-dire sur la façon dont ces athlètes handicapés abordent la compétition. Et vous écrivez notamment, la compétition est plus au service du dépassement de soi que du dépassement des adversaires. On a presque l'impression que finalement c'est le monde du handisport qui est un petit peu, comment dire, le gardien de ce qui fait vraiment à la base la beauté du sport, qui a peut-être été dévoyé justement par une trop forte médiatisation, par l'arrivée massive de l'argent dans certaines disciplines.
Non, la notion de l'adversaire existe tout autant chez les valides. Personne qui handisport, elle est à un départ de 100 mètres, c'est pour arriver première ou premier. Tout autant que les valides. Ce qui est très différent par rapport aux valides, c'est que le valide va ne juger sa performance qu'en fonction des adversaires, exclusivement, alors que les personnes handicapées vont d'abord évaluer si elles se sont parfaitement accomplies dans la discipline, c'est-à-dire si elles ont été au maximum de leur performance. Ça existe aussi chez les valides. Je l'ai rencontré chez certains valides. Un Federer et quelqu'un qui fonctionne comme ça. Son objectif, certes, il a envie de gagner, Mais pourquoi tient-il depuis si longtemps ? Parce que son objectif, c'est d'être meilleur que Federer. Il y a des grands champions comme ça, et j'ai rencontré beaucoup de très grands champions valides qui étaient très vulnérables, précisément parce qu'ils n'avaient pas ce rapport au sport. En ce sens, les personnes handicapées ont beaucoup, à mon sens, à apprendre aux valides. Beaucoup à apprendre aux valides.
Je vous voyais faire non de la tête, Laetitia Bernard, lorsque je posais ma question à Hébert Ripoll.
Ah non, c'était plutôt pour le côté handisport, gardien, etc., monde des valeurs du sport. Rassurez-vous quand même, il y a aussi de la triche, il y a aussi des problèmes de dopage.
Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse
qui est survalorisé
non plus ces disciplines. En préparant l'émission, je songeais aux 50 km marche des derniers Jeux de Rio, Patrick Montel, avec cet athlète français. C'est Johan Diniz. Alors, vous avez commenté cette course, c'était vraiment assez impressionnant, alors qu'il était un des favoris de la course, puis qui finalement a eu plusieurs grosses défaillances pendant cette course, mais qui a voulu absolument aller au bout, tout en sachant qu'il n'aurait pas de médaille. Mais là aussi, on était dans le dépassement de soi. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un parallèle à faire justement là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a quand même encore certaines disciplines où c'est le dépassement de soi justement qui prime avant peut-être avant la médaille, avant la performance pure, quoi, avant le record.
Je ne sais même pas si on peut parler de dépassement de soi. En l'occurrence, il y avait carrément une perte de conscience. C'est-à-dire que lorsqu'il est tombé, il ne savait plus dans quel sens il était. S'il était dans une course, il ne comprenait pas pourquoi il fallait continuer à marcher, mais son cerveau lui intimait de le faire. Donc, je pense que ça va très très loin. Mais quelque part, il était handicapé lui aussi, parce qu'il n'avait plus sa conscience. Je pense que nous sommes tous handicapés. Et je pense que c'est ça notre problème. C'est que comme on est tous handicapés, on a du mal à nous regarder, à regarder le sportif handisport, parce que quand on regarde le sportif handisport, c'est comme si on se regardait dans un miroir. Et ce miroir nous fait peur. Et je pense que le problème, il vient de là. Il vient simplement de notre rapport à l'autre, qui est un rapport qui est faussé par nos propres angoisses. Et je pense que c'est ça le problème. Donc, et pour le reste, je rejoins évidemment Laetitia. Faut pas croire que ce soit un monde de bisounours, le handisport. On est dans un monde de compétition, dans un monde de performance, avec exactement les mêmes dérives que chez les valides.
Mais avec peut-être, voilà, parfois la tentation de vouloir peut-être survaloriser des performances parce qu'elles sont faites par des sportifs handicapés, ce qui n'est pas forcément rendre service justement à ces disciplines. Alors, je vais peut-être essayer de suivre un peu votre double logique. Donc quand vous dites à la fois finalement ce sont nous sommes tous
bien sûr
handicapés,
vous l'êtes, moi je le suis, regardez, ouais. Vous portez des lunettes, déjà vous n'êtes pas dans la norme de ceux qui n'en portent pas déjà.
Et alors justement je me disais, tiens, plutôt que de vouloir absolument toujours distinguer le sport valide, disons, du handisport, est-ce qu'on pourrait pas imaginer créer des disciplines auquel tout le monde pourrait participer, valide comme non valide? Je pense par exemple, alors, je crois que Riyad Salem est dans l'ascenseur, donc on va finir par enfin l'apercevoir à peu moins de 10 minutes de la fin de l'émission. Mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer, je sais pas, par exemple, de se dire, tiens, voilà, du rugby fauteuil ou du basket fauteuil, mais qui serait accessible à n'importe qui, c'est-à-dire à partir du moment où moi valide, je suis dans un fauteuil, ouais, finalement je suis au même niveau. Laetitia Bernard.
Oui, ça se fait déjà, oui, ça se fait beaucoup dans le cadre d'initiation, mais ça se fait, oui, bien sûr. Vous pouvez si vous avez envie de jouer au basket fauteuil, vous pouvez vous inscrire dans un club de basket fauteuil. Je pense qu'ils seront peut-être un petit peu surpris. Mais
ça pose des problèmes. Moi, je me rappelle de Stéphane Diagana qui avait accepté de courir avec un bandeau sur les yeux. Je peux vous dire qu'il n'était pas du tout à l'aise, Stéphane, alors qu'il est champion du monde du 400 haies. Et là, il s'est retrouvé dans une situation de fragilité terrible lorsqu'il a fallu courir avec un bandeau sur les yeux. Donc, je ne suis pas certain que tout le monde ait envie de tenter cette expérience.
Est-ce que c'est justement ce que vous vouliez dire tout à l'heure, Hubert Ripoll, en disant que les sportifs handicapés avaient peut-être été intéressants aussi dans leur façon de pratiquer la compétition pour les sportifs valides? C'est-à-dire de remettre peut-être certaines choses à leur place.
Non, ce que je veux dire, c'est que effectivement, ce qui a été dit est très juste. Quand on voit une personne handicapée, on a tendance à avoir de la compassion. Et ça, c'est typiquement latin et c'est typiquement français. Or, il ne faut pas être dans la compassion. Il faut être dans le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est il y a un individu qui accomplit une performance, une production. Et on en reste là.
Ça veut dire qu'il faut pas hésiter, par exemple, à avoir une forme de sévérité s'il y a une forme s'il y a une contre-performance.
Absolument, de la même façon. Il n'y a pas de régime particulier. Laetitia peut le dire bien mieux que moi. Les gens sont gênés par rapport à une personne handicapée. Et j'ai longuement questionné sur cela au Jeux de Londres. Ce que disent les sportifs handisports Français qui ont participé aux Jeux de Londres, c'est cette, ce naturel avec lequel les Londoniens les discutaient avec eux. Chose que l'on ne trouve pas dans un pays où on a d'abord de la compassion. Mais d'abord parce que les personnes handicapées, on ne les voit pas dans la rue. Alors, ne serait-ce que parce que l'accessibilité...
À Rio, j'ai vu zéro personne handicapée. Ça m'inquiète vachement, quoi.
Il va y en avoir plein tout à coup, ça va être...
Alors,
ils sont tous déguisés en valides.
On a la chance de voir un athlète supplémentaire dans ce studio. Bon, vous n'avez pas battu le record, Riyad Salem, de la rapidité pour arriver jusqu'à nos studios. Il nous reste un petit peu moins de 5 minutes, mais je suis ravi de vous voir avec nous pour la fin de cette émission. On parlait justement de la question de la compassion, et justement cette compassion qui peut parfois entraver l'appréciation de ce qu'est la performance sportive. Est-ce que vous avez au moins, en tout cas, l'impression que petit à petit, les choses sont en train de changer ?
Elles changent énormément. Elle change énormément parce que aussi les athlètes olympiques, du moins paralympiques et olympiques, eh ben on se croise de plus en plus. Il y a beaucoup plus d'échanges avec les fédérations traditionnelles. Donc on considère plus le handicap comme étant quelque chose extérieur au mouvement sportif.
Quand vous parlez d'échanges, ça peut être aussi dans des compétitions.
Exactement. Il y a de plus en plus de fédérations qui intègrent le handicap à l'intérieur même de leur fédération. Donc ça change complètement la donne. Avant, on se croisait pas, on se rencontrait pas, on se connaissait pas, et il y avait ce côté un peu complaisant, les pauvres, les machins. Et là maintenant, quand on s'entraîne ensemble, on s'aperçoit que nous à chaque fois, entre guillemets, moi j'ai été surpris dans le rugby de voir que la grande famille du rugby était présente dans les grands événements. Et c'est assez impressionnant de voir ces gros colosses qu'on voit à la télé ne pas avoir peur de se mettre le cul sur un fauteuil et de se faire dégommer, quoi. Donc ça change les rapports. On n'est plus du tout sur le même type de rapport qu'avant où c'était le côté les pauvres handicapés, quoi.
C'est un peu plus facile aussi peut-être sur le plan médiatique. À France Télé, par exemple, Patrick Montel, 100 heures de direct, là, c'est quand même pas rien. Proposer 100 heures de direct pour les Jeux Paralympiques de Rio, ça, c'est la preuve le signe en tout cas d'un vrai changement de regard, ou bien il y a d'autres raisons qui expliquent
ça? Moi, je dirais que c'est un engagement quasiment militant, et je dis que cet engagement militant, il est absolument nécessaire. Et ce qu'il faut changer, c'est l'esprit des gens. Le handisport, c'est pas le Téléthon. C'est pas parce qu'on va donner 20 euros, c'est pas parce qu'on va dire, oh, les pauvres et tout, il faut faire quelque chose pour eux. C'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Si vous voulez régler le problème, tous ceux qui m'écoutent là, c'est juste de les regarder, de juste de les apprécier, de dire non, ça m'emmerde, c'est nul, je zappe, ou au contraire, respect, je reste. Tant qu'on n'en sera pas arrivé là, on aura encore du pain sur la planche. Je crois que le problème, il est là. Et ce problème-là, il passe par la télé, comme disait Riyad, mais pas seulement. Il passe par l'éducation, il passe par les écoles, il passe par changer notre regard. Et ne pas avoir peur de ce que nous sommes en réalité, c'est-à-dire, je le répète, nous sommes tous des handicapés.
Hubert Ripoll, quand on est un athlète handicapé, qu'on fait du sport à haut niveau, on est aussi forcément un peu militant, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste un athlète et un sportif individuel, mais on est aussi dans une forme d'exemplarité, peut-être pour aussi l'ensemble des personnes handicapées. Ça, c'est quelque chose qui ressort de...
Le militantisme est aussi exceptionnel chez les valides qu'il est naturel chez les personnes handicapées. Ça, c'est bien évident, puisque tous, sans exception, sont plus ou moins engagés, mais tous militent. Et à une époque où la France parle de lien, il faut regarder ce qu'est le lien. Et il nous donne cet exemple d'une communauté qui est capable d'avoir une grande cohésion sociale. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement important.
Laetitia Bernard, vous vous sentez militante et presque obligée d'être un peu militante?
C'est plutôt ça, oui. Militante, c'est peut-être un terme un peu fort. Enfin, je ne vais pas aller faire des manifs, aimer les handicapés, mais je sais que j'ai des messages, enfin, que je suis bien placée pour faire passer certains messages. Et en tout cas, je suis très vigilante, oui, bien sûr.
Même si on a de petits moignons,
de petits moignons,
pour nous dans l'eau tout est facile.
Est facile.
Moi le paraplégique de Cherbourg, moi le polio,
oui le polio,
Bordeaux, dans le grand bassin, nous sommes concurrents. Pourtant nos cœurs vibrent en même temps.
Voilà, petit extrait d'une série que certains téléspectateurs connaissent peut-être déjà et qui va reprendre à partir de lundi sur France 2, encore à partir de 20h40. Ça s'appelle Vestiaire, ça raconte justement le quotidien dans une piscine. de sportifs handicapés, handicapés physiques et mentaux. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la question des déficients mentaux
qui sont moins aussi bien considérés.
Voilà. Et qui mériteraient sans doute là aussi une émission à part entière. Mais voilà, en tout cas, c'est aussi une façon de traiter sur le mode de la dérision de ce monde du handisport. C'est donc diffusé à partir de lundi sur France 2, les Jeux Paralympiques de Rio. C'est du 7 au 18 septembre sur Radio France avec vous, Laetitia Bernard. Merci beaucoup. Merci à vous, Riyad Salem. Et bonne chance.
Merci.
On vous souhaite encore de belles médailles.
Hein. Si on peut faire péter la Marseillaise, ça serait sympa.
Ah, ça serait agréable. Merci Patrick Montel et Hubert Ripoll. Les ouvrages, vos ouvrages respectifs, on les retrouve sur notre site franceculture.fr à la page du grain à moudre.